Comme mentionné en début d'émission, on va parler du trafic maritime sur le Saint-Laurent. Il y a une semaine, jour pour jour, la Société pour la nature et les parcs division du Québec, qu'on appelle la SNAP, a émis un communiqué où elle propose, pour mieux protéger le Saint-Laurent, de contingenter le trafic, de limiter le trafic sur le Saint-Laurent. C'est une idée qui est complètement à contresens de ce qu'on vit présentement au pays, au Québec et au Canada. Je trouvais intéressante l'idée à mener pour une ouverture de discussion. Alors, j'ai contacté la société et aujourd'hui, nous recevons M. Alain Branchaud, qui est le directeur général de la Société pour la nature et les parcs. M. Branchaud, bienvenue à l'émission.
Bonjour, M. Harrison.
On a eu des gens de la SNAP en entrevue il y a peut-être un an et demi, lorsque vous avez reçu le mandat d'aller sur le territoire le long du Saint-Laurent, en Côte-Nord, Basse-Côte-Nord, entre autres, pour aller puiser les idées, les initiatives des gens pour en faire des aires protégées éventuelles pour rencontrer les objectifs du gouvernement du Québec à cet égard. Mais rappelez-nous ce qu'est la SNAP, peut-être juste pour que les gens puissent comprendre qui vous êtes et quel est votre mandat.
On est un organisme qui vise à rendre la nature protégée, aimée et accessible dans toutes les régions du Québec et pour 1000 générations. On travaille principalement à la protection du territoire, tant terrestre que marin. Puis, on travaille aussi à influencer les politiques publiques qui touchent à la biodiversité. Et c'est peut-être dans ce cadre-là qu'on a proposé le contingentement du trafic maritime sur le Saint-Laurent.
Contingenter, ça veut dire limiter le trafic sur le Saint-Laurent. D'où vous vient cette idée-là, d'études scientifiques ou d'une certaine perception des choses? Vous sortez cette idée-là d'où?
Bonne question. Je dirais qu'il y a deux origines de ça. D'abord et avant tout, on a des données scientifiques, des faits qu'on peut constater sur l'impact du trafic maritime actuel sur la biodiversité en termes de collision, en termes de destruction d'habitat. Un exemple très concret au niveau de la destruction des habitats, c'est le bâtillage entre Montréal et Québec. Il y a plusieurs îles qui sont en train de disparaître à cause de l'effet des vagues des bateaux sur les rivages. Il y a même une île qui a déjà disparu, donc il y a des impacts concrets. Donc sur ces îles-là, il y avait des oiseaux qui nichaient, il y avait des habitats pour la biodiversité. Les impacts réels qu'on peut mesurer, il y a 9000 transits actuellement sur le Saint-Laurent par année, ce qui est beaucoup, ce qui est énorme. Et avec tous les projets d'expansion qui sont sur la table, on va encore augmenter cet impact-là sur l'environnement. Donc, la réflexion de base, c'est quelle est la capacité de support réel du Saint-Laurent? Puis, l'autre inspiration de ça, c'est vraiment dans cette mouvance-là actuellement, des changements transformateurs qu'on doit opérer, des changements systémiques, des changements à nos systèmes dans une perspective où on a, comme exemple très concret, une économie qui est construite sur une croissance continue, qui dépend d'une croissance continue. On sait très bien que mathématiquement, physiquement, quand on regarde les ressources qui sont disponibles, ça sera pas possible de maintenir ce rythme-là. Et donc, il faut revoir notre stratégie, puis peut-être passer, si on prend l'exemple concret du trafic maritime, d'une stratégie de compétition entre les différents ports à une stratégie de coopération qui met en valeur davantage les transits maritimes pour les biens internes plutôt que du commerce international, par exemple, qui nous amène son lot de bébelles qu'on doit acheter. C'est une grande réflexion, mais on peut la rapporter à des situations concrètes chez nous, dans notre propre vie. Vous avez une maison, vous faites une fête, vous invitez des gens. À 20 personnes, ça peut être plaisant. À 30 personnes, il commence à y avoir des désagréments. Puis à 100 personnes, c'est plus le fun du tout. Puis ça peut être dangereux. C'est un peu le même principe qu'on peut appliquer au fleuve Saint-Laurent. C'est combien de bateaux qu'on peut inviter à la fête pour que on puisse remplir les besoins de notre économie, mais aussi éviter ce plafond-là où on a des impacts qui sont dramatiques sur la biodiversité et sur l'environnement.
La maison avec la centaine d'invités, si elle peut en accommoder 20 ou 30, il faudra peut-être essayer de la réparer après. Il va y avoir des dégâts aussi avec les 100, mais réparer le fleuve, c'est plus compliqué.
Ça peut représenter beaucoup de ressources, de restaurer les habitats. Dans le cadre mondial là, pour la biodiversité, de la Convention sur la diversité biologique auquel le Québec, le Canada se sont engagés, là, entre autres à protéger 30 %. On sait très bien que dans certaines régions du Québec, ça sera pas possible d'atteindre la protection de 30 % du territoire. Et si on veut atteindre cette cible-là dans un horizon, disons, de 2050, il va falloir restaurer des habitats. Ça coûte plus cher de restaurer des habitats, de recréer des habitats, que de protéger ceux qui sont existants. Puis d'un point de vue stratégique, il faut regarder cette proposition-là avec sérieux. On a eu un épisode d'une pandémie avec la COVID-19 où les politiciens disaient, oh, on se rend compte à quel point on est vulnérable avec tout ce modèle économique-là. Il faudrait revoir notre modèle économique puis s'assurer qu'on est moins dépendant des exportations. Puis donc, on y avait toute cette vision-là quand même assez avant-gardiste. Même notre premier ministre de l'époque au Québec, François Legault, faisait la promotion de cette transformation-là de notre vision économique. Puis là, aujourd'hui, on est dans complètement l'inverse. C'est la promotion des grandes infrastructures, c'est la croissance de notre capacité de transport maritime. Puis, dans une course folle dont on ne sait pas exactement où elle va s'arrêter, mais ce qu'on sait, la science est solide là-dessus, c'est que les impacts sur l'environnement sont réels. Donc, on invite au dialogue, on n'a pas ciblé de seuil particulier. On sait qu'en ce moment, il y a 9000 transits, puis on sait que c'est dommageable pour l'environnement. Donc, c'est une base de réflexion sur comment commencer à regarder peut-être le transit maritime sur le Saint-Laurent, non pas comme un droit, mais comme un privilège, et comment s'assurer que chaque transit soit accepté sur la base des retombées socio-économiques pour le Québec aussi. Puis pas juste dans une perspective là, de croissance folle de l'économie.
Il y a votre communiqué qui fait allusion au fait qu'en 1990, il y avait 117 millions de tonnes qui transitaient, de marchandises qui transitaient par le Saint-Laurent, puis là, on serait à peu près à 155 millions pour illustrer justement cette croissance-là du volume pour les gens qui nous écoutent. Et si à Lille, nous sommes, je dirais, spectateurs un peu de ça, parce qu'il n'y a pas de production industrielle, le port ici ne sert finalement qu'à quelques pêcheurs occasionnels et puis au traversier Bella. On participe à l'initiative depuis 3 ans du défi Milton. On est sous le sceau de la reconnaissance de l'UNESCO. Donc, vous êtes sur un terreau favorable à la protection de l'environnement, mais en même temps, on mène pas grand-chose sur le Saint-Laurent, mais on ramasse ce qui passe autour, ça ne veut pas. Alors, c'est de là l'intérêt. Mais les gens vont dire aussi en même temps, on regarde cette année, on a l'impression que le Saint-Laurent foisonne de vie, on voit un grand nombre de baleines qu'on n'avait pas vues depuis un certain temps, il y a des requins, bon, la pêche au flottant, ça semble bien aller, tout ça. Dans le Polaroid, là, la photo, là, les gens n'ont pas l'impression que le Saint-Laurent est en danger. C'est illusoire, cette vision des choses, ou c'est proche de la réalité?
Ouais, c'est une bonne façon de présenter la problématique de communication des enjeux. En ce moment, le Québec, le golfe Saint-Laurent est un peu un refuge climatique pour plusieurs espèces qui sont plus capables de vivre plus au sud à cause de l'augmentation de la température. On peut imaginer qu'éventuellement aussi, on va se retrouver comme étant la zone qui va être affectée et que le refuge climatique va se retrouver plus au nord. Donc, c'est très dynamique en ce moment, mais il faut regarder donc les données scientifiques sur le long terme. Il faut regarder les tendances générales. Puis, c'est vrai que dans certains cas, on comme l'exemple des baleines noires, où qu'on en voit davantage qu'auparavant. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Ça indique aussi qu'on a mis en place certaines mesures qui sont bénéfiques pour l'espèce. Mais de façon globale, les tendances océanographiques sont pas réjouissantes, là. On a des secteurs du Saint-Laurent où on mesure des baisses d'oxygène. On a une augmentation de la température à certains endroits. Certaines pêches ne vont pas bien. Certaines espèces, tu sais, vont très bien en ce moment. Puis justement, c'est encore en raison de ces phénomènes-là. Mais il faut pas perdre de vue que, de façon globale, on a une crise climatique qui est en train de rendre certains secteurs de la planète inhabitables. Et ça va en s'étendant. On a une crise de la biodiversité qui est en train de faire disparaître plus de 50% des populations de plusieurs espèces. Et donc, ce sont des phénomènes réels, mesurés, appuyés par la science. Et si on ne prend pas acte de la nécessité de faire des changements systémiques, des changements à nos systèmes, entre autres économiques, on ne pourra pas y arriver. On va avoir continuellement un déclin au niveau de la biodiversité, entre autres. Donc, il faut, je pense, ouvrir le dialogue, être capable de regarder les faits, faire confiance à ce que la science nous dit aussi et revoir peut-être aussi notre système de valeurs, peut-être être moins dans cette course folle à la possession de tout et de créer un modèle économique qui permette assurément à tout le monde d'avoir ce qui est essentiel à son bien-être comme un plancher au niveau des revenus, mais un plafond aussi qui empêche de dépasser les limites de la capacité de support des différents écosystèmes. On a différents indicateurs au niveau des capacités de la planète, puis il y en a plusieurs qui sont déjà surpassés, franchis. Donc, on peut se mettre la tête dans le sable, puis ne pas voir ces indicateurs-là. Où on peut, comme on le souhaite faire à la SNAP Québec, ouvrir des dialogues, commencer à explorer comment on pourrait mettre en place des seuils pour que la fête dans la maison, la fête dans le Saint-Laurent, continue d'être quelque chose de positif et qu'on n'invite pas trop d'invités pour, au final, avoir des destructions d'habitat qui vont être irréversibles ou qui vont coûter extrêmement cher à réparer.
Monsieur Branchaud, cette idée de limiter le trafic éventuellement sur le Saint-Laurent, de le contingenter, avec tous les projets de développement, on regarde ce qui se passe à Baie-Comeau, on a l'intention de développer le port et peut-être d'avoir des installations de production de GNL. Havre-Saint-Pierre veut agrandir son port, Sept-Îles veut agrandir son port, sur la Rive-Sud, c'est un peu la même chose, on fait venir de plus en plus de croisières. Vous êtes, pour le moins que l'on puisse dire, face au vent là, avec cette idée-là.
Oui, totalement. Puis je pense qu'il faut, encore une fois, donc regarder la science, regarder les études socio-économiques également. Il y a le plus gros projet là, d'expansion portuaire en ce moment le long de Saint-Laurent, c'est l'expansion du port de Montréal à Contrecœur. Ouais. Puis quand on regarde les données, c'est un projet qui est voué à devenir un gros éléphant blanc. Les tendances au niveau du transport maritime sont beaucoup plus vers des gros bateaux et le port de Montréal à Contrecœur n'aura pas la possibilité d'accueillir ces tendances-là. Donc, il faut revoir puis réfléchir stratégiquement à comment on pourrait avoir un ensemble d'infrastructures portuaires qui travaillent de façon collaborative. Puis peut-être que c'est plus intelligent d'avoir un port en eau profonde quelque part le long de Saint-Laurent, donc plus en aval, et qui serait un port à partir duquel il pourrait y avoir des transits ensuite à l'intérieur là, du Québec, à l'intérieur de la zone maritime là, qui va jusqu'en Ontario, aux États-Unis. Donc, c'est ce genre de stratégie-là qu'on souhaite voir réfléchir pour optimiser l'utilisation de cet atout qu'on a, là, qui est le fleuve Saint-Laurent, mais en ayant toujours en tête l'importance de ne pas accentuer la dégradation du Saint-Laurent. Avant, au départ, la voie maritime, elle avait 4,2 mètres de profond. Elle est rendue à 11,3 mètres de profondeur. C'est énorme. C'est une perturbation du canal de communication pour les espèces qui a des conséquences qui se mesurent même au niveau de pour certaines espèces, de différences génétiques entre le bâbord puis le tribord, entre la rive gauche puis la rive droite. Donc, ça a des conséquences dramatiques et ça fait en sorte, entre autres, que le niveau du fleuve baisse de plus en plus. C'est la tendance très lourde de ce côté-là. Donc, imaginez, on a des bateaux qui sont de plus en plus gros, qui ont besoin d'un tirant d'eau de plus en plus grand, et on a un fleuve à cause des changements climatiques puis à cause des perturbations qu'on a faites, dont le niveau baisse constamment. Les recettes fonctionnent pas. Donc, pourquoi est-ce que, je m'excuse de dire ça, mais c'est à une organisation environnementale de lever le drapeau puis de dire, oui. Hey, votre réflexion stratégique, elle fonctionne pas, là. Vous devriez réfléchir à ces enjeux-là. La mouvance qu'on a en ce moment au niveau des tarifs, puis bon, on vit une situation historique où on a un président américain qui est imprévisible complètement, à la limite de la folie, je dirais. Puis, c'est quoi la meilleure stratégie pour faire face à ça? Est-ce que ça serait pas peut-être de se positionner comme un pays qui va vers l'avenir réel, pas celui du passé. Toutes les infrastructures qu'on est en train de penser pour avec les énergies fossiles, c'est aller vers le passé, c'est aller à contre-courant de ce qu'on doit faire. Puis tous ces milliards qu'on investit dans cette vision-là seraient beaucoup mieux servis en termes de retombées pour la population, puis l'avenir du Canada, l'avenir du Québec, si on regardait vers des énergies alternatives, comme le font des pays comme la Chine, comme le font d'autres pays en ce moment, qui sont massivement en train d'investir dans l'économie de demain. Et je suis pas sûr qu'on a en ce moment les leaders qui réfléchissent vraiment aux enjeux, puis on a ce réflexe que je pourrais qualifier des années 40, où c'est la croissance à ne plus finir. Puis je veux dire, fait qu'on doit revoir ces choses-là, puis de façon spécifique, nous, on se dit, ben, un endroit où on peut commencer à réfléchir, c'est sur le contingentement du trafic maritime. Puis des gens vont dire, ah, en passant, le trafic maritime, c'est celui qui génère le moins de gaz à effet de serre. Mais quand on regarde les vraies données, au final, c'est vrai que par transit, on génère moins de gaz à effet de serre. Mais quand on regarde la tendance année après année, les émissions de gaz à effet de serre, de gaz à effet de serre du trafic maritime augmente continuellement parce que c'est un classique, ça. Quand tu es dans une situation de croissance continue, tu vas toujours finir par empirer la situation, puis les gains technologiques qui sont faits ne permettent pas de réellement baisser et de diminuer l'impact, par exemple, dans le bateau, les émissions de gaz à effet de serre, ou encore au niveau des bruits. Si on diminue le bruit par bateau, mais qu'on augmente le nombre de bateaux, mais on va avoir autant de bruit, sinon plus, au fur et à mesure que ça va progresser, on va avoir plus de collisions avec les poissons, avec les mammifères marins. Donc, il faut réfléchir ça dans une perspective où une croissance continue d'invités dans sa maison pour la fête, ça se peut pas. Il faut établir des seuils et c'est la même chose pour le trafic maritime.
Vous avez une vision des choses aussi qui est intéressante. Je disais, je ne sais plus si c'est dans votre communiqué ou si c'est un des articles dans les journaux nationaux qui sont parus. C'est qu'au lieu d'évaluer chacun des projets à l'unité, on a un projet X, puis on évalue celui-là, il faudrait peut-être qu'on commence à penser que le projet X, il s'additionne au projet Y, puis au projet V, puis W. C'est l'ensemble de tous ces projets-là aussi qui génèrent un impact et pas seulement le nouveau projet qu'on veut développer.
Totalement. Puis l'Agence d'évaluation d'impact du Canada est censée mener une évaluation régionale à la demande de la communauté de Kanawagi, communauté Mohawk, là, dans le sud de Montréal, qui demandait qu'on ait une vision globale de toutes les transformations qu'on a fait subir au fleuve Saint-Laurent, pas juste celle du trafic maritime ou de l'artificialisation des berges, tout le dragage, tous les impacts qu'on a eus jusqu'à maintenant, puis qu'on développe justement ce réflexe-là de mieux évaluer chacun des projets en le positionnant dans la perspective. En ce moment, dans le fleuve, vous en avez nommé plusieurs. Il y a des projets d'expansion à Bécancour, Bécomo, Havre-Saint-Pierre, Matane, Montréal, Sorel. Donc, tout ça, chacun de ces projets-là, en ce moment, est en train être évalué de façon indépendante. Et le réflexe de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, c'est de dire, voici les impacts connus de ce projet-là. Puis là, ils font moins des mesures d'aménagement théorique qu'on va mettre pour compenser ces effets-là, puis ça donne un projet qui est acceptable. En gros, là, c'est la réflexion. Tant que moi, c'est une grosse perte de temps de faire des évaluations si on arrive toujours aux mêmes conclusions. Mais c'est une accumulation de stress qui est pas prise en compte lorsqu'on évalue chacun des projets, ce qui fait aucun sens. Je donne souvent l'exemple de quelqu'un qui reçoit un coup de poing et pourrait s'en tirer avec un bleu, un œil au beurre noir, puis s'il en reçoit deux, il va peut-être se retrouver avec un mal de tête, puis trois, une mâchoire cassée, puis quatre, il va peut-être perdre connaissance, se retrouver à l'hôpital avec une hémorragie, puis si on accumule le nombre de coups de poing comme ça, ben il va peut-être mourir aussi. Fait que c'est un peu la situation qu'on fait subir à nos espèces en péril, qu'on fait subir aux écosystèmes. On accumule les coups de poing, mais à chaque occasion, on considère chacun des coups de poing comme étant indépendant, puis comme si la personne pouvait l'absorber pour le vrai. Et dans la vraie vie, les espèces reçoivent tous ces coups de poing constamment. Et donc, il faut revoir notre façon de faire les choses. Puis la proposition d'évaluation régionale qui a été faite par la communauté de Kanawagé, à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, ça fait plusieurs années là, qu'elle est dans les plans. Elle était censée commencer incessamment. Puis on a le gouvernement du Québec qui bloque, qui est contre ce projet-là. J'imagine qu'on comprend pourquoi, parce que la logique voudrait qu'on puisse avoir une vue d'ensemble pour bien prendre des décisions. Et cette vue d'ensemble-là permettrait aussi, peut-être, d'avoir une approche plus collaborative entre les différentes autorités portuaires pour voir c'est quoi la meilleure stratégie portuaire pour le Québec, pour le Saint-Laurent.
Monsieur Branchaud, merci beaucoup de vous être prêté à cette entrevue. C'est très éclairant quant à la position de votre organisation, la Société pour la nature et les parcs. Alors, merci du temps accordé et bonne chance dans votre démarche. À une prochaine, possiblement.
Ça fait un plaisir. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.
Nous recevions aujourd'hui M. Alain Branchaud, directeur général du SNAP, Société pour la nature et les parcs, le sujet « Mieux protéger le Saint-Laurent » par un contingentement de son trafic maritime. Cette entrevue a été réalisée grâce à l'initiative du journalisme local financée par le gouvernement du Canada.